Le métaverse, les NFT, les DAO et autres joyeusetés du Web3 t'intéressent, t'interpellent, te rendent dubitatif. C'est le bon moment pour t'abonner à mon tout nouveau podcast. Tu cherches sur ta meilleure plateforme de balado le Web3 Café. On ira ensemble découvrir ce qui se passe dans ce nouveau monde et je te donnerai les clés pour mieux comprendre comment tu peux en saisir les opportunités. Le Web3 Café. Les DRH sont encore une fois confrontés à de nouveaux enjeux. Amorcés en 2021, avec l'accélération de la transformation digitale, les DRH doivent notamment intégrer dans leur plan d'action des modes de travail hybrides et du management à distance. Et du côté des collaborateurs. Du côté des collaborateurs, les attentes continuent de changer et vont bien au-delà de la seule rémunération. Conséquence, les entreprises doivent donc apprendre à travailler encore plus leur attractivité. Tu sais, cette fameuse histoire de marque employeur. C'est donc au tour des recruteurs de séduire les candidats. Le cabinet McKinsey indique même dans l'une de ses dernières études que, faute de souplesse dans les conditions de travail, 25% des salariés seraient prêts à changer d'employeur. Quand je te disais que le rapport de force était en train de s'inverser, recruter et fidéliser les talents s'impose donc encore plus comme une condition première de survie et de croissance des organisations. Tout un programme, oui, tout un programme, et on est déjà en plein dedans en 2022. Pour bien comprendre quelles sont les tendances 2022 en matière de gestion des talents, l'invité du podcast est Luc Breton. C'est le fondateur de Purpose for Good, l'organisateur de l'événement The Next Gen Enterprise Summit et le président d'honneur du think tank Institut G9+. Bonjour Luc.
Salut PPC.
Ravi de te retrouver ce matin. On démarre directement dans le cœur du sujet. Les grands enjeux derrière la gestion des talents en 2022, quels sont-ils?
Il y a un enjeu clair, tu l'as évoqué, c'est la capacité des personnes au travail à rester au top de leur employabilité. Donc ça, c'est une aspiration qui nécessite un développement des aptitudes et des compétences clés. C'est win-win, c'est win pour l'entreprise parce que ça lui permet d'avoir des gens qui sont toujours au top des besoins en compétences, qui ne cessent d'évoluer et qui n'ont jamais demandé une évolution aussi importante dans l'histoire de l'économie, puisqu'on est dans une économie de l'innovation. Et c'est aussi important pour les salariés eux-mêmes dans leur capacité dans ce rapport de force à rester à la manœuvre et à pouvoir changer s'ils le souhaitent, si les conditions ne sont plus optimales. Ensuite, c'est vraiment évoluer vers des gouvernances partagées et à impact. Je pense que ces choses-là sont plus vraiment négociables dans l'avenir. Et puis, pour les organisations, essayer d'endiguer la grande vague des démissions dont tout le monde parle aujourd'hui, qui n'est pas seulement vraie aux États-Unis. Je pourrais donner des exemples en France. Enfin, je voudrais évoquer une dernière chose, c'est la fluidité des statuts des travailleurs et le développement des plateformes et des places de marché qui permettent de fluidifier l'accès à des ressources dont on a besoin au moment où on en a besoin. Voilà quatre exemples parmi les huit tendances majeures que j'ai développées sur une tribune de Forbes, notamment en début d'année, sur lesquelles on peut approfondir si tu le souhaites.
Pour les DRH, ce qui change vraiment, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'enjeux, ils sont forts, ils sont lourds, ils s'y prennent comment les DRH en 2022 pour finalement arriver à s'emparer de ces enjeux et être au rendez-vous?
Les DRH, ils constatent par exemple que pendant le Covid, ils ont dû s'adapter rapidement, sans préparation. 28% des employés, par exemple, en 2021, ont assumé des rôles nouveaux et le marché du travail s'est transformé brusquement. Et les pertes d'emplois se sont multipliées sous l'effet du Covid, ce qui a obligé finalement les forces vives à bouger. Aujourd'hui, les DRH ont dû privilégier l'agilité, la curiosité pour retrouver des personnes dans les emplois qui correspondent aux compétences nécessaires et puis faire bouger des gens qui étaient sur des profils ou des rôles historiques et qui n'avaient plus de nécessité plus sous la même forme, pour les faire évoluer vers des nouveaux rôles du fait de la pandémie. Il y a une stat qui m'impressionne, hein. 69% des entreprises les plus admirées au monde, donc celles qui sont les plus sexy, je dirais, pour les gens au travail, privilégient l'agilité et la curiosité en matière d'apprentissage plutôt que le parcours professionnel et l'expérience lorsqu'il s'agit de recruter. Donc on voit bien que cette capacité à bouger, non plus seulement dans une fiche de poste ou dans un rôle, mais sur des compétences qui vont s'actualiser et qui vont devoir augmenter pour être employables aujourd'hui, s'accélère significativement.
Ouais, donc on entend flexibilité, on entend aussi anticipation, gestion dynamique des talents aussi pour nos amis DRH. Donc ça bouge très très vite. Tu nous parlais dans les quatre grands enjeux que tu nous as cités en tout début de ce podcast, du Great Resignation, du Big Quit. Cette tendance aux États-Unis, elle arrive en France, en Europe ou pas trop?
Elle est déjà là en fait. Je discutais avec des acteurs du conseil, de l'audit ces dernières semaines, qui me disaient qu'ils n'avaient jamais vu un tel taux d'attrition, alors que de leur côté, rien de significatif n'avait changé. Korn Ferry, en 2021, a mesuré qu'un tiers des professionnels qu'ils interrogeaient déclaraient qu'ils envisageaient de quitter leur emploi, quand bien même ils n'en avaient pas d'autres en vue au moment où on les interrogeait et où ils envisageaient potentiellement de bouger. Et 74% des professionnels pensent que le phénomène va augmenter en 2022, de telle manière que 50% de tous les employés vont devoir acquérir de nouvelles compétences, bouger dans leur rôle d'ici 2025. Donc c'est considérable. Par ailleurs, c'est pas seulement un mouvement d'employeurs, mais aussi pour beaucoup un mouvement de secteur. Un employé sur sept cherche activement à changer de secteur pour se diriger vers un autre qui sera plus porteur d'avenir. On le sait dans l'hôtellerie à la restauration, c'est un exemple classique. C'est vrai aussi dans le conseil. Des nouvelles compétences, capacités nécessaires post-Covid, alors on n'ose même pas utiliser le terme de post-Covid, mais on voit que la plupart des organisations aujourd'hui se préparent à cette donne-là, et donc il y a des termes comme upskilling, reskilling, hein, qui signifie monter en compétence sur de nouvelles compétences ou se déplacer sur des compétences différentes, devient le facteur clé de succès des organisations aujourd'hui et l'obsession des DRH, ce qui les empêche de dormir la nuit.
Alors ça empêche les DRH de dormir la nuit. Je prends les commentaires de Julie qui nous dit « Les DRH doivent animer leurs ressources humaines, donner du sens aussi. » Si on se tourne un petit peu vers la nouvelle génération, celle qui arrive dans les entreprises, qui est rentrée déjà, comment ils font les DRH aujourd'hui en 2022 pour les fidéliser, pour arriver à les garder?
Clairement, aujourd'hui, le salaire est plus le premier enjeu, même s'il n'est pas négociable en dessous d'une certaine valeur, hein, c'est-à-dire que c'est un prérequis, mais ça n'est pas l'enjeu final de la négociation. Clairement, les nouvelles générations cherchent des employeurs inclusifs, au sens où salariés aujourd'hui qui se disent malheureux au travail ont 4,6 fois plus de chances d'être leur employeur dans les 6 mois, et donc c'est un enjeu majeur. On voit que la plupart, 81%, c'est massif, hein, des personnes qui déclarent être heureux dans leur travail se sentent inclus, trois fois plus que les autres. Et donc cette capacité à être inclus, c'est tout simple. C'est quand je rentre chez moi le soir, je veux avoir le sentiment, l'intuition intrinsèque, tripale, je dirais, que j'ai eu un impact sur l'avenir de mon organisation, par l'avenir de mon organisation, sur la société et ou sur l'environnement. Donc, est-ce que ce que je fais sert à quelque chose? Est-ce que je suis utile à mes collègues en le faisant? Est-ce que mes rôles et mes responsabilités sont clairs? Ou est-ce que finalement, je suis un rouage anonyme dans une organisation dont le seul objectif est de sortir un résultat net, ce qui est tout à fait légitime, mais largement insuffisant?
On veut du sens, on veut compter aussi, on veut se dire, ben oui, j'ai contribué, voilà ce que j'ai réussi à faire. Je prends les commentaires, ils sont nombreux, c'est Loïc qui nous dit, ce qui est intéressant, c'est que d'après le rapport 2020 de la NDRH, les freins à plus de gestion des talents en entreprise, c'était essentiellement petit a, un manque de personnel à la DRH, p, un manque de budget, c, un manque d'outils. Il semblerait donc, selon Loïc, que d'un point de vue des convictions des DRH, des dirigeants, l'intérêt de la gestion des talents ne fasse aucun doute, mais que les freins à lever sont en réalité des moyens. Qu'est-ce que tu en penses, Luc ?
C'est certain qu'il va falloir des moyens de formation et de mouvement des salariés, donc de montée en compétences de ces salariés inédits. Je suis d'accord avec ça. Ensuite, il faut vraiment un changement de posture sincère, honnête, de la part des organisations. Le washing en la matière, donc le fait de mentir sur ses intentions, ne passera plus. Et comme tout finit toujours par se savoir sur Internet aujourd'hui, toute démarche insincère sera pénalisée violemment. Il y a une étude de KPMG qui dit que 50% des dirigeants ont la certitude qu'une entreprise inclusive et diversifiée attirera davantage les talents de la génération des millennials en France, contre 29% dans le monde. Donc on voit que particulièrement en France, où l'enjeu climat et l'enjeu de sens est important, et je pense qu'on est plus éveillé à ça en France, c'est absolument critique. Donc oui, il va falloir des moyens, mais les moyens ne suffiront pas, si j'ose dire. Il va falloir que, sincèrement, les organisations fassent ce qu'elles disent et disent ce qu'elles font avec une mission, un objectif qui sera clair, simple à comprendre, qui va pouvoir se décliner dans les équipes, dans ce réseau d'équipes qui va faire place à un fonctionnement par hiérarchie d'équipe plutôt que par hiérarchie de subordination. C'est quelque chose d'important. Aux États-Unis, il y a 2000 PDG qui ont signé un engagement, CEO Action for Diversity and Inclusion. Donc, c'est une action d'engagement à la diversité et à l'inclusion. Et 71% des chefs d'entreprise interrogés ont conscience d'être tenus personnellement responsables des progrès dans ce domaine. Donc je crois que aujourd'hui, des équipes diversifiées, des équipes inclusives sont plus aptes, et prouvées scientifiquement, à résoudre des problèmes complexes et à prendre de meilleures décisions dans une grande majorité de cas.
Passionnant, on voit bien que ça bouge. Tiens, une question, c'est Laura qui nous dit tout à fait d'accord sur la fluidité des statuts, mais est-ce que les DRH sont équipés pour traiter la force au travail dans son ensemble? Et il semble à Laura que les métiers s'emparent des statuts entre guillemets non contrat de travail, l'intérim, le CDD, le CDI. Qu'est-ce que tu vois sur le terrain, Luc?
C'est d'une complexité rare et Laura a tout à fait raison. Moi, ce que je vois, c'est une montée en puissance des plateformes et des places de marché et puis une montée en puissance des directions métiers sur ces sujets-là. Finalement, sont en première ligne et sont souvent en race campagne, il faut le dire. Parce que les DRH ne peuvent pas faire tout non plus. Et donc, je pense qu'il est très important pour les DRH de se faire aider, de pratiquer, comme on le fait chez NextGen, des audits de maturité managériale qui permettent de voir quelles sont les aspirations des équipes et ne pas appliquer à ces équipes des formations massives en mode B52 en disant il faut que tout le monde soit formé à ceci ou à cela. Il faut faire de l'ultra personnalisé aujourd'hui, agir sur l'ancrage de pratiques agile ou de pratiques d'efficacité managériale. Nous, on les observe chez NextGen au niveau mondial. On voit que ces pratiques-là, elles sont efficaces et il faut les amener aux équipes de manière chirurgicale, précise, en fonction des besoins. Et travailler sur ses forces, c'est bien, mais fixer aussi ses faiblesses, arrêter ses faiblesses, c'est très important. Et puis, cette montée en puissance des places de marché de talents, y compris sur des talents n'était jusqu'à présent pas disponible sur ces places de marché. C'est un phénomène nouveau. Je peux citer quelques plateformes comme Catalent, Toptal, Innocentive, Kaggle, Upwork, qui aujourd'hui mettent à disposition non seulement des profils spécialisés ou de niveau plus faible, mais aussi des profils à compétences très complexes, très haut niveau, jusqu'à des CXO. Et donc, c'est très important et on voit que ce mix de contrat va clairement à l'avantage du flashing, d'être capable, y compris pour des gens de très haut niveau, de faire des missions pour différentes entreprises en développant des expertises et en choisissant ces missions. Et c'est assez fascinant de voir à quel point les entreprises aujourd'hui, je lisais, 90% des dirigeants pensent que ils vont faire appel à ce type de plateforme dans l'avenir pour rester compétitifs et aider en tant que de besoin à la demande aux bonnes compétences au bon moment.
Ça veut dire qu'en tant que collaborateur, on travaillera de moins en moins chez quelqu'un, mais pour quelqu'un ou avec quelqu'un, c'est ça, avec une entreprise. C'est à peu près, on va devenir un peu tous freelance, un petit peu, pas
alors,
tous.
On serait cette légende populaire à ce stade, en tout cas. Et tu as raison sur la direction, sur la dynamique. Ensuite, faut pas rêver non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on rentre en particulier sur le marché du travail ou qu'on y est depuis quelques années, on a besoin de solliciter un prêt, d'acquérir une voiture, un logement, bref, de construire sa vie personnelle et de solliciter des financements qu'on n'a pas, qu'on n'a pas hérité une somme d'argent, ce qui est quand même le cas pour la plupart. La bonne vieille forme du CDI est quand même géniale pour ça. Et toute autre forme est quand même pénalisante. Donc, je pense qu'il va falloir que la loi et les lois s'adaptent à cette volonté des talents de pouvoir exercer leur talent dans la direction qu'ils souhaitent, parce que effectivement, les talents vont vouloir choisir les missions sur lesquelles ils s'engagent. Ils vont pouvoir l'automatiser via des DAO, Decentralized Autonomous Organization, proposées par la blockchain. Ils vont permettre de contractualiser et d'être évalués en continu de manière de plus en plus fluide, et notamment par les plateformes que j'ai citées, mais pas seulement. Donc oui, la tendance, c'est choisir des missions, être sur potentiellement plusieurs missions à la fois, ou en tout cas les enchaîner dans la direction des types de compétences que l'on souhaite développer. Ensuite, il y a un marché du travail qui est toujours aussi rigide qu'en France, hein, comme on le sait, et qui va devoir s'adapter très très vite à ces. Mais je pense que là aussi, les entrepreneurs ont des choses à proposer et les plateformes vont s'en occuper.
Cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin, donc ça va être le moment de la dernière question. On va ouvrir un petit peu. Luc, quelle tendance vois-tu pour l'avenir à 3, 4, 5 ans ?
Ouais, clairement, des organisations dont les gouvernances seront méconnaissables par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui, avec le bon vieil organigramme politique des organisations legacy qui va exploser. Je pense une fluidité de ce que vont faire les talents dans le temps et dans l'espace qui va être à l'avantage de ces mêmes talents. Un clivage quand même fort entre des talents qui vont avoir la capacité par eux-mêmes de renouveler leurs compétences en permanence et puis d'autres qui n'auront malheureusement pas cette capacité et qui vont être les grands perdants de ce mouvement, et probablement une importance des diplômes dans la durée des carrières qui sera de moins en moins important, plus on va s'éloigner de la sortie des écoles ou de l'obtention de ces diplômes par ces talents qui vont être probablement évalués au fil de l'eau de manière de plus en plus continue. Puis une importance, une montée en puissance des critères d'impact écologique et sociaux drastiques dans les mois qui viennent. En particulier, je pense à l'impact carbone, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'autres impacts, en fait, sur la société et l'environnement que l'impact carbone. Celui-ci, en tout cas, va s'installer dans les comptabilités officielles des entreprises à côté du bilan financier et va impacter énormément la façon dont vont travailler et la façon dont les business models des organisations vont se déformer dans les mois qui viennent.
Ah, les business models responsables à tout sens du terme, aussi bien carbone que sociétaux et les impacts sur la société et puis aussi sur la santé peut-être mentale hein, de celles et ceux qui travaillent. Mille merci Luc ce matin pour ta présence, merci pour cet éclairage, ta vision et bon vent et à toi pour ce magnifique travail que tu entreprends depuis maintenant quelques années et qui fait vraiment vraiment du bien. Les DRH et toutes les entreprises en ont besoin, donc ça c'est du grand bonheur. Tu parlais de carbone, ça tombe bien, demain matin l'épisode, on va être sur la reforestation, qu'est-ce que ça change dans le modèle. Eh oui, et si planter des arbres était la solution pour lutter contre le dérèglement climatique et sauvegarder la biodiversité. On va en parler demain, vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Non, pour échanger sur la reforestation, l'invité de cet épisode du podcast de mardi sera Frédéric Daniel, c'est le Head of Development chez Reforest Action. Vous allez voir, c'est juste passionnant. Luc, un grand merci à toi d'être passé.
Merci beaucoup PPC.
Bonne semaine à toi. Merci à vous tous et vous toutes d'avoir participé pendant le direct. Vous le savez, 7h30 en direct sur LinkedIn. On compte sur vos commentaires, sur vos questions. Ça nous aide à progresser tous ensemble collectivement. Et puis merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici sur ta principale plateforme d'audio à la demande. Ça fait un bien fou. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain matin. Et d'ici là, ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao. Bye bye. We'll be right back.